Mesdames et messieurs sont venus s'installer autour de ce plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Vacheron, secrétaire général de la CGT, responsable de la communication des élus, des mandatés CGT dans les comités sociaux d'entreprise et des rapports unitaires. Merci Thomas d'être avec nous. On est également avec Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale CGT en charge des questions de mixité femmes-hommes et co-secrétaire générale de l'Union départementale du Val-d'Oise. Merci Myriam d'être avec nous. Et on est également sur ce plateau avec Emilio Mellet, mesdames et messieurs. Emilio, tu es grand reporter politique et écologique à l'Humanité.
Salut.
Merci d'être avec nous. Et on est avec Safia Aïtouarabi. Safia,
bonjour.
Militante à la riposte antiraciste, étudiante à l'Université d'Aix-Marseille. Vous pouvez les applaudir très fort. On va parler de l'actualité de la semaine. Chers amis, cette semaine, l'actualité sociale et l'actualité des luttes a été marquée notamment par le rapport de du Conseil d'orientation des retraites. La question des retraites est revenue au cœur de l'actualité et du débat politique la semaine dernière avec la fuite, puis la publication officielle d'un nouveau rapport du COR. Dans ce rapport, le COR préconise notamment un nouveau report de l'âge légal de départ à la retraite à 66 ans en 2045. Le rapport a fait l'effet d'une bombe alors qu'on est dans la dernière ligne droite, vous pouvez huer bien sûr, alors qu'on est dans la dernière ligne droite du conclave sur les retraites qui doit prendre des conclusions mardi prochain. Emilio, qu'est-ce qu'il contient ce fameux rapport du COR qui fait l'effet d'une bombe?
Alors, tu nous l'as dit, c'est un rapport qui émet des préconisations et les préconisations, elles ont fuité notamment sur un point. Et comme d'habitude, vous allez voir, ça ressemble au programme d'Edouard Philippe en fait. et c'est augmenter encore l'âge de départ. Là, il y a deux ans, on a encore eu une nouvelle réforme des retraites, 64 ans. Et maintenant, ce serait 66 ans et demi, c'est important, d'ici 2070 encore et encore. Alors, pourquoi ça pose problème, cette proposition? Déjà parce que le COR outrepasse son rôle, qui est d'habitude, qui c'est communément admis, le COR doit faire un constat et donner l'ensemble des possibles. Sauf que là, quand on regarde les propositions du COR, elles penchent très sévèrement du côté du report de l'âge. Et donc, en fait, c'est un dévoiement de cet outil du COR. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, le système des retraites, il est très faiblement déficitaire. Et il le sera à peine plus en 2030, etc.
Et pourquoi est-ce que le COR a changé de ton?
Alors, le COR a changé de ton aussi parce qu'il y a à peu près un an et demi, il a changé de président.
Ah.
Le nouveau président, il s'appelle Gilles Berset. Je crois qu'on a des amis de Gilles Berset, d'ailleurs, sur le plateau. Gilles Berset, qui sait, c'est un libéral, aux surprises, comme Emmanuel Macron a l'habitude d'en nommer à la tête des différentes institutions et comités, etc. Et donc, il a vampirisé le COR parce que c'est celui qui est à l'origine c'est l'architecte en fait du programme d'Emmanuel Macron en 2017.
D'accord.
Et c'est un ennemi farouche aussi de l'augmentation des salaires, mais je crois que là Thomas est dans les starting blocks. Donc
Thomas, explique-nous, est-ce que tu penses que le COR a été instrumentalisé? Est-ce que tu penses que c'est ça?
Bah le changement de président.
Parle bien dans le micro.
Le changement de président avec Gilles Berset qu'on connaît très bien, puisque Gilles Berset, il a une particularité, il a été président du groupe d'experts de la non augmentation du SMIC. C'est extrêmement important de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un groupe d'experts qui donne des indicateurs pour savoir s'il faut ou non augmenter le SMIC. Et quand Gilles Berset était président de ce groupe dit d'experts du SMIC, il a proposé avec constance pendant 15 ans, depuis que le groupe d'experts de la non-augmentation du SMIC, comme on l'appelle, systématiquement de pas augmenter le SMIC. Donc on le remercie, c'est comme tu le disais, quelqu'un d'extrêmement libéral. Alors ça pourrait nous faire sourire si c'était pas dramatique, puisque vous savez qu'on est un pays particulier, un pays où le SMIC il y a beaucoup de salariés qui sont au SMIC, beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui n'arrivent pas à vivre au SMIC. Il y a près de 3 millions de salariés qui aujourd'hui dans ce pays sont au SMIC et n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et d'ailleurs, 60% des SMICards sont des femmes. Comme par hasard, les salariés les moins bien payés, ce sont des femmes, mais Myriam en dira plus sur le sujet. Et pour revenir sur le COR, justement, et sur CET, en fait, ils ont fait fuiter le rapport volontairement le lendemain de quelque chose qui n'était encore jamais arrivé, c'est-à-dire que pour une fois, pour la première fois, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. On a manifesté par millions, on les a mis sous pression. Ça a été ancré au plus profond de la société, la question de « on ne veut pas travailler plus longtemps, 64 ans, c'est toujours non ». On a sorti un sondage CGT qui montre que 66% de la population est pour l'abrogation. Et enfin, ça a été un vote symbolique à l'Assemblée qui a eu lieu le 5 juin, le jour d'une mobilisation interprofessionnelle à l'appel de la CGT. Et pour faire contre-feu, bah, dès le lendemain, ils ont sorti le rapport. Et le rapport, comme tu viens de le dire, avec un seul axe, nous faire encore et toujours travailler plus longtemps. Jamais d'autres possibilités qu'on propose, comme augmenter les cotisations sensiblement, ou mettre à contribution les capitaux, ou l'égalité homme-femme, mais Myriam en dira plus.
Bah justement, Myriam, je t'en supplie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la réduction des inégalités hommes-femmes sur les temps partiels subis permettrait de renflouer les régimes de retraite ?
En fait, lutter contre les inégalités femmes-hommes par le biais donc de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des salaires des métiers à prédominance féminine et aussi de l'interdiction des temps partiels subis, ça serait une manne financière énorme. Déjà, ça serait une mesure égalitaire, puisque, comme l'a dit Thomas, 60% des SMICards sont des SMICardes, qu'à la retraite, c'est encore pire, puisqu'on a énormément de femmes qui partent avec des décotes ou qui sont au minimum de pension. Donc tout ça fait que ça permettrait, un, de faire rentrer des cotisations sociales, deux, d'être des mesures de pouvoir d'achat, et trois, ça permettrait le financement des retraites, hein, de notre système social. Et on voit d'ailleurs, et ça Thomas le disait, que le gouvernement, il se contredit lui-même, et Gilles Berset se contredit lui-même, puisque lorsqu'ils ont passé la réforme des retraites en 2023, la solution c'était de travailler jusqu'à 64 ans. Deux ans plus tard, hein, quand il y a une mobilisation qui continue avec grâce à la CGT, on a continué à mettre la pression en entreprise, dans les administrations et dans la rue, et on a réussi à avoir pour la première fois un vote jeudi. On voit qu'ils se contredisent eux-mêmes en continuant à vouloir absolument augmenter la durée d'âge pour partir en retraite.
Thomas, c'est quoi le bilan que vous tirez, vous, du conclave sur les retraites ? François Bayrou a dit qu'il existe un chemin pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Il a raison ou pas ?
Évidemment, François Bayrou, il tend des pièges pour essayer vraisemblablement de durer de plus longtemps, mais ça, c'est son affaire, pas la nôtre. Nous, la nôtre, elle est très, très claire, c'est qu'on veut abroger la réforme des retraites de 2023 à Macron, et on veut même revenir sur les précédentes, parce que pour nous, l'objectif, c'est de vivre mieux. On est dans un pays qui n'a jamais créé autant de richesses, et systématiquement, c'est les salariés qui doivent payer. Du coup, évidemment, on pense que le conclave qui était proposé au départ, sans totem ni tabou, bah, il est revenu dessus, et on a claqué la porte, pas simplement comme ça, mais en essayant de mobiliser derrière. Hein. Vous avez vu, le premier mai de cette année a été important contre la trumpisation du monde d'un côté. Il y avait beaucoup de jeunesse qui était mobilisée dans toutes les villes de France. À Paris, il y avait 100 000 personnes, 300 000 personnes dans toute la France, mais aussi pour défendre les salaires et l'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est ce fil conducteur permanent que Myriam évoquait, sur le fait que l'abrogation, la population la veut. On ne veut pas crever au boulot, on ne veut pas se faire voler deux années de vie en plus. Donc ça suffit et on ne lâchera pas. On a eu enfin le vote, il faut continuer. Maintenant, il faut abroger 2023 et revenir à une retraite à 60 ans.
Safia ?
Ouais, pour aller dans la suite de la discussion, en fait, j'étais en train de me dire que le point commun entre le rapport du corps en réalité, qui est très idéologisé, hein, comme on vient de le montrer, et justement ce recul sur les modalités du conclave par Bayrou, pour moi, ça revient au fait, comme tu disais Thomas, qu'en fait, ils veulent nous faire payer leur crise. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que leur système a des difficultés et qu'en fait, pour eux, c'est aux travailleurs de payer cette crise-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très idéologique. Il faut utiliser ce terme. Il faut le dire parce qu'en fait, il y a d'autres manières de voir la survie du monde du travail, de voir une manière de faire sa vie, d'avoir le droit à la retraite, d'avoir le droit de se reposer. Parce que je pense que derrière cette idéologie, c'est jamais innocent les projets, par exemple, de retraite par capitalisation qu'il peut y avoir, de système mixte ou de système plein, comme aux États-Unis. Et je pense que voilà, derrière des rapports comme Le Corps qui pousse un peu plus loin pour un peu aussi tester les limites, hein, savoir ce que vont dire les syndicats, comment ça va être pris dans les médias, comment ça va être pris auprès des travailleurs. C'est des gens qui poussent toujours plus les limites de l'acceptable pour aussi faire accepter une dimension idéologique.
Emilio, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? C'est quoi ce vote ?
Oui, bah justement, Thomas l'a évoqué, c'était le 5 juin, c'était à l'initiative de la niche, c'était dans la niche parlementaire, donc c'est-à-dire la journée où les groupes ont le droit de déposer toutes les propositions de loi qu'ils veulent. En l'occurrence, cette fois, c'était une proposition de résolution faite par les communistes, qui visait à demander au gouvernement d'abroger la réforme des retraites. C'est la première fois, après deux ans de déni démocratique, quand même, que les parlementaires se sont exprimés, parce que je le rappelle, c'est un projet de loi des retraites qui n'a été voté qu'au Sénat. L'Assemblée nationale s'est vu imposer par 49-3. Et donc les députés ont largement voté, donc c'est un désaveu énorme. Alors, par contre, c'est pas contraignant, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne vient pas, malheureusement, d'abroger la réforme à 64 ans. Ça, c'est le seul qui a la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est François Bayrou. Parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, les députés peuvent pas tout abroger, ils peuvent pas créer une charge supplémentaire dans le budget de l'État ou de la sécurité sociale. Et donc là, ça leur est impossible. Il faut revenir quand même sur les origines de ce conclave, toujours sur François Bayrou, parce que ce conclave, comment il apparaît ? Il apparaît au moment où Michel Barnier tombe et François Bayrou vient d'être nommé. Il sait que c'est un sujet extrêmement important pour la gauche que d'abroger cette réforme des retraites. Et donc, lui, il veut pas le faire. Il sait que Macron, il veut pas. C'est une ligne rouge pour Macron et les macronistes, y compris pour la droite qu'il veut dans son gouvernement. Et donc, il se dit, on va essayer d'inventer un comité Théodule, là, où au départ, on dit si, on peut revenir sur les 64 ans. Et puis, en fait, au final, non, tout ça pour, en fait, obtenir la non-censure des socialistes. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, c'est que François Bayrou, il a donné un droit de veto au MEDEF en disant que de toute façon, s'il y avait absolument pas d'accord entre les syndicats et le patronat, c'est la loi Borne qui s'appliquerait. Donc, dès le départ, ce truc-là était biaisé.
Et du coup, tu veux dire que François Bayrou joue son avenir ?
Ouais, parce que même les socialistes, alors, qui décidément changent un peu de pied sur la censure, là, on dit que à la fin du conclave, s'il n'y avait pas d'accord, la question des retraites ne venait pas à l'Assemblée, ils déposeraient une motion de censure. Et si on prend les équilibres de la proposition de résolution, il va la perdre.
Est-ce que François Bayrou n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Myriam, t'en penses quoi ?
Alors, je pense qu'il a peut-être intérêt à ce qu'il y ait un accord, mais de toute façon, le conclave, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a quitté, parce que la question de l'âge de départ en retraite n'était plus sur la table. Donc, on a essayé de pousser au maximum ce qu'on pouvait pousser, et une fois qu'on a eu les certitudes comme quoi aucun retour à l'âge de départ en retraite n'était possible, c'est là qu'on a averti le monde du travail que ce conclave ne servait plus à rien. Par contre, il y a encore des points de levier qui sont importants, et il y a aussi celui du référendum.
Donc,
ça permettrait justement à Bayrou de s'en sortir la tête haute et de proposer un référendum. Et on sait, et vous l'avez dit, qu'il y a 70% des salariés de ce pays qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça lui permettrait de sortir par le haut et de ne pas proposer en fait d'empirer les choses avec la capitalisation. On sait très bien ce que ça a fait aux États-Unis il y a plus de 10 ans.
C'est proposé par certains acteurs à droite, effectivement, d'introduire la capitalisation.
Donc, et en effet, on voit l'idéologie capitaliste qui veut remettre la main sur la manne financière des retraites par le biais de la capitalisation qui finance les banques et qui finance les assurances.
Et il y a l'extrême droite aussi, parce que là, on dit libéraux, mais en fait, la nouveauté aussi, c'est que l'extrême droite commence à en parler, de la capitalisation. Il y a une conférence de presse, il n'y a pas longtemps, du RN, déjà, ils se sont convertis à la règle des 3% imposée par Bruxelles, le 3% de déficit que les États ont théoriquement pas le droit de dépasser. Donc le RN a dit qu'il la respecterait et surtout ils disent que la capitalisation quand même, peut-être qu'on pourrait commencer à y penser. Certains, là pour l'instant c'est une capitalisation à titre individuel comme ça a pu être le cas dans certains pays européens, mais en fait ils essaient tellement de draguer les marchés financiers qu'ils en viennent à lâcher quasiment le système par répartition, eux aussi. Et donc c'est vraiment l'arnaque sociale de l'extrême droite. Il faut le marteler aussi, je pense. C'est important.
Et si c'est tellement l'arnaque, il y a quelque chose qui est très important.
Parle bien dans le micro, parle vraiment comme ça.
C'est tellement l'arnaque parce qu'il faut bien l'expliquer. En fait, comme tu viens de le dire exactement, je partage évidemment ce que tu viens de dire, ce que les salariés souvent ne savent pas, la population ne sait pas, c'est que les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 4%. Les frais de gestion d'une banque ou d'une assurance, c'est 20%. Quand c'est privé, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, parce que tout le monde comprend bien que quand c'est privatisé, capitalisé, ils font pas ça gratuitement, ils font ça pour l'argent. Donc la capitalisation, il n'y a aucun intérêt pour les salariés. Et d'ailleurs, les mêmes, le patronat notamment, qui refusent qu'on augmente un petit peu les cotisations pour équilibrer, pérenniser le système, même revenir aux 62 ans, voire même revenir aux 60 ans, ils sont farouchement opposés pour qu'il y ait plus de cotisations, et par contre, ils sont très favorables à ce qu'on paye plus de capitalisation. Vous voyez bien l'arnaque. Et le deuxième élément, presque plus important, méconnu, il y a 3 budgets dans ce pays. Il y a le budget de l'État qui est très endetté. Il y a le budget des collectivités territoriales qui est faiblement endetté. Et il y a le budget de la sécurité sociale qui a 80 ans cette année, c'est une année d'anniversaire, qui est le plus faiblement endetté. En fait, le budget le moins endetté, le budget de la sécurité sociale, celui qui est lié au salaire brut, les lignes en haut de notre fiche de paye, c'est le moins endetté et c'est le plus attaqué. En fait, la grosse arnaque, c'est ce qu'a dit Myriam, c'est que rien que sur les retraites, c'est 380 milliards d'euros, et ils voient ça comme un gros magot, ils veulent rentrer dedans pour le privatiser, pour en faire des bénéfices. Qui peut croire une seule seconde que les banquiers ou les assureurs, ils ont un intérêt pour les salariés, si ce n'est pour leur portefeuille?
On va parler de l'avenir de la CGT, de l'avenir du syndicalisme. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a parlé de l'histoire de la CGT et du syndicalisme. Et là, je voudrais qu'on se tourne notre regard vers l'avenir, puisqu'il y a un sondage qui a été commandé par la CGT sur le rapport entre les jeunes et le syndicalisme. Les premiers éléments frappants sont pas très encourageants pour l'avenir du syndicalisme. Je vous donne quelques chiffres qu'on va commenter ensemble. 95% des jeunes ne sont pas syndiqués, 16% ignorent s'il y a un syndicat dans leur entreprise, un tiers ne fait pas confiance à la CGT pour défendre les intérêts des travailleurs, et la moitié des jeunes ne fait pas confiance aux syndicats pour défendre les intérêts des jeunes. Thomas, est-ce que ça déclenche une alerte rouge à la CGT, ces chiffres ?
En fait, c'est important de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que quand on regarde les aspirations de la jeunesse, elles sont de fait très proches des revendications de la CGT. Mais comme les revendications et les propositions de la CGT sont trop peu connues, et elles gagnent à l'aide, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'initiatives pour le faire, et il faut le faire encore plus, encore mieux, et on vous remercie aujourd'hui parce que ça le permet. La première, par exemple, préoccupation de la jeunesse, c'est en fait les salaires. Ça tombe bien, l'outil le plus adéquat pour augmenter son salaire, c'est la CGT, c'est de s'organiser collectivement dans son entreprise avec un syndicat, et on a même un tuto en ligne. S'organiser avec la CGT pour gagner des augmentations de salaire. Le deuxième élément, celui que tu as pointé, parce que nous, on ne veut pas tourner autour du pot, oui, il y a une carence, il y a un manque de conscience des jeunes sur l'utilité du syndicat, l'utilité du syndicalisme. Et ça, il faut qu'on travaille. Après, vous le savez, vous êtes, vous, dans les médias des milliardaires, c'est un long flot permanent catastrophique qui nous montre à la télé que quand c'est une partie de la caricature, ou qu'en tout cas quand il y a des grèves, on le dit souvent, hein, on va sur BFM TV que quand on commence à bloquer le pays. On va jamais à la télé pour montrer ce que c'est que le syndicalisme du quotidien, ce que Aymeric a expliqué tout à l'heure, défendre ses collègues de travail, défendre son salaire, écouter ses collègues de travail, organiser les salariés pour quoi faire, améliorer son salaire, améliorer les conditions de travail. Et 90% de notre temps, c'est de s'occuper de ses collègues de travail, pas juste l'image d'Épinal qui est tout le temps montrée à la télé. Et c'est ça qu'il faut qu'on valorise plus et mieux, comme on a essayé de le faire aujourd'hui, puisque Myriam le dira, il y avait plusieurs centaines de jeunes aujourd'hui dans la bourse du travail de la CGT à Montreuil pour discuter de ces sujets, pour affronter les difficultés, les dépasser et gagner.
Myriam, qu'est-ce qui explique selon toi cette désaffection des jeunes pour la CGT et pour le syndicalisme en général qu'on constate dans l'enquête, pardon?
Alors oui, moi ce que je nuancerais, c'est que c'est plus une réticence à se syndiquer dans un syndicat d'ordre général. Mais pour autant, nous on a des signaux qui nous rassurent et qui sont extrêmement importants. Depuis justement le combat qu'on a mené contre la réforme des retraites depuis 2023, on a une hausse exponentielle du nombre de syndiqués et de syndiqués jeunes et de syndiqués femmes. Et on a eu ce même rebond lorsqu'on a fait campagne l'année dernière pendant la campagne du NFP. Qu'on appelle campagne du NFP, ouais. On a aussi eu un rebond du nombre d'adhésions et notamment des jeunes. Donc on a sauté un pas qualitatif où ce sont des jeunes qui se sont syndiqués pour nos valeurs, pour ce que nous portons et notamment nos valeurs de lutte et nos valeurs de lutte contre l'extrême droite plus précisément dans la période récente. Mais voilà, donc on est dans un syndicalisme qui répond aux revendications de la jeunesse, puisque dans le même sondage que tu cites, il y a les enjeux pour la jeunesse, les enjeux, c'est l'augmentation des salaires. Thomas le disait, la CGT, c'est le syndicat de la fiche de paye. C'est celui qui mène les NAO dans les entreprises, qui
les
débraye
NAO,
quand...
Négociations annuelles
obligatoires. C'est celui qui débraye lorsque le patronat ne veut pas augmenter les salaires, et c'est celui qui organise le monde du travail. En deuxième enjeu d'importance pour la jeunesse, c'est l'accès au logement, l'accès aux services publics. Donc ça, c'est aussi des combats qu'on mène, et notamment dans notre campagne pour les services publics et pour le bien commun. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on répond aux revendications de la jeunesse pour peu que la jeunesse les connaisse. Et en effet, comme on le dit, nous sommes rarement invités pour pouvoir dire ce que nous portons comme revendication, mais plutôt invités lors des moments de crise. Et à savoir que la CGT, elle signe en fait beaucoup d'accords, elle va à la négociation, elle essaye de tirer les salaires. Contrairement à ce qu'on peut croire. Donc en fait, on est sur là où on débraye, là où on mène la lutte, c'est parce qu'on est dans un point de friction avec le patronat qui ne lâche absolument rien. C'est pas la CGT en fait qui bloque en général, c'est le patronat qui bloque et c'est la CGT avec le monde du travail qui répond.
Safia.
Oui, moi je voulais réagir à ce que tu disais Thomas. Parce qu'en fait, j'essaye de me remémorer un peu mes années collégiennes, lycéennes, et là maintenant je suis étudiante. Et en fait, dans les médias, la plupart du temps, dans les médias bourgeois, quand on voit des syndicalistes, des travailleurs bloquer le pays, moi personnellement, ça m'évoque une fierté. Ça m'évoque la fierté de, ok, mes parents, tous ces gens dans ma famille, en fait, c'est la puissance de la classe ouvrière. Ils ont une capacité de dire, on va pas se laisser imposer des lois, des trucs chelous comme ça. Mais je pense qu'effectivement, les gens que ça peut déranger, notamment ceux qui vont consommer les médias bourgeois, ça peut être les vieux de la boule, mais pas la jeunesse. Pour la jeunesse, j'aurais trouvé d'autres raisons. C'est que le marché du travail, ces 20 dernières années, il a été profondément modifié par la sous-traitance en cascade et par l'intérim, notamment chez les jeunes. On a des postes, des jobs qui sont précaires au fin fond d'une boîte sous-traitante où, en fait, certes, les opérateurs, par exemple, peuvent être syndiqués, mais le syndicalisme n'arrive pas à atteindre jusque les petites boîtes sous-traitantes. L'intérim, c'est des parcours de travail qui sont hachés où c'est très difficile de se syndiquer et ça devient un défi, en fait, pour le syndicalisme d'arriver à toucher ces couches-là des travailleurs et des travailleuses quand on a le patronat qui essaye de déstructurer le marché du travail sur lequel se base le syndicalisme. Et la dernière chose que je voyais, c'est que dans la jeunesse, les moments où il y a eu du regain pour l'action collective, pour le syndicalisme, ben en fait, c'est quand on a montré le visage d'un syndicalisme de combat et quand on a montré que le syndicalisme était en capacité de prendre en charge plein de questions de société et qu'en fait, encore une fois, on parlait d'idéologie tout à l'heure sur la question des retraites et de la capitalisation, mais en fait, il faut assumer qu'on a une idéologie qui est celle de l'émancipation.
Emilio ?
Moi, je voulais insister sur ton deuxième point. Tu disais, à raison, c'est vrai que effectivement, la précarisation des jeunes faisait aussi obstacle, évidemment, à la syndicalisation. Le chiffre que tu donnais, Jean, il est inquiétant. Effectivement, 95% des jeunes ne sont pas syndiqués. Moi, il y a un autre chiffre qui m'intéresse dedans, c'est lorsqu'on leur demande, il y a en gros classé les priorités selon différents types de sujets. Sur la question des droits, ce qui arrive très fort, c'est pouvoir défendre mes droits sans être inquiété. Et en fait, je pense qu'il faut lier les deux, parce qu'en fait, plus on est précaire, moins on a la possibilité de faire entendre sa voix. Les premiers trucs qu'on entend quand on arrive dans une boîte, quand t'arrives en CDD ou en intérim, c'est surtout, tu vas pas voir les syndicats, tu restes loin de ces trucs-là, sinon tu te feras pas embaucher. Et c'est le témoin, à mon sens, de la dureté du patronat qu'évoquait Myriam tout à l'heure, qui ne lâche rien. C'est-à-dire qu'elle fait pression, notamment sur les jeunes dès qu'ils arrivent, pour parfaire l'atomisation que le libéralisme essaie d'appuyer. La force du syndicat, c'est la force du collectif. Parce qu'en fait, quoi qu'on dise, la question, c'est celui du rapport de force. Et le rapport de force, tout seul, on peut pas le mener. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Mais j'ai l'impression que, notamment chez les jeunes, en fait, on n'entend plus ce message parce qu'on est tellement en train de nous dire qu'il faut se méfier des syndicats quand on arrive dans les boîtes que le taux de syndicalisation chute de façon drastique.
Thomas, dans ce sondage, vous constatez que la première préoccupation de la jeunesse, c'est de vivre de son travail. C'est important, ça.
C'est exactement ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la jeunesse comme les salariés, leur première préoccupation, malgré le matraquage médiatique permanent, y compris ce que renvoient les organisations politiques réactionnaires et d'extrême droite, n'en parlons pas, malgré ce matraquage-là, la première préoccupation, c'est donc de vivre correctement de son travail, donc d'augmenter les salaires, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et je pense que pour qualifier, caractériser, aujourd'hui, il y a une radicalité. C'est une radicalité patronale, une radicalisation patronale extrêmement forte. Tu évoquais la question de la sous-traitance. En France, on aime bien nous comparer avec les autres pays d'Europe, toujours sur ce qui les arrange. La France, alors que c'est la deuxième économie européenne, on a seulement le sixième SMIC d'Europe. Et pourtant, quand vous discutez avec la population, tout le monde vous dit le problème de la France, c'est le coût du travail, le SMIC est trop haut, etc. Deuxième économie, seulement le sixième SMIC. Et deuxième élément, on est de très loin les champions d'Europe de la sous-traitance justement. Parce que notre économie aujourd'hui, elle est organisée, ordonnancée avec la sous-traitance en cascade. Les champions, ils prennent un marché, ils le revendent à un autre, ils le revendent à un autre. Sauf qu'à la fin, il y a des travailleurs et des travailleuses, puisque Myriam le spécifiait justement. Moins bien t'es payé, plus en général t'es une femme, puisque c'est les emplois féminisés les moins bien payés. Mais pire, c'est que au-delà de l'état de fait et de la radicalisation patronale, il y a une organisation pour en arriver là. En fait, ce qu'il faut connaître aussi, on parle souvent des aides publiques aux entreprises privées. C'est 200 milliards d'euros. Sur ces 200 milliards d'euros, il y a près de 90 milliards d'exonérations de cotisations. Sur votre fiche de paye, c'est le brut qui est en haut. Et ça, les patrons n'en payent pas. Quand on est au SMIC, il n'y a quasiment plus de cotisations sociales. Et la dinguerie, si je peux le dire comme ça, c'est que plus bas est ton salaire, moins bien t'es payé, plus mal t'es payé, plus ils touchent des aides publiques aux entreprises privées. Donc qu'est-ce que font les patrons? Et pour leur profit d'un côté, et parce qu'ils se radicalisent de l'autre, c'est sous-traitance, tout le monde est au SMIC ou aura des pâquerettes, et ça tasse tous les salaires, puisque, autre record, c'est extrêmement important, et on vous remercie de faire des références historiques, c'est la première fois que le tassement entre le SMIC et le salaire médian, c'est-à-dire combien de personnes au-dessus, en dessous, c'est 2200 euros net. Le SMIC, c'est 1426 euros net. Il n'y a jamais eu autant de monde dans ce delta-là. Dans le privé, c'est 11 millions de personnes qui vivent avec ça. Alors, quand on est jeune, on est encore plus confronté à ça, encore plus confronté à la précarité. Et pour terminer quand même, parce qu'au-delà des portes ouvertes, comme on le disait, moi, je vais prendre une chose. Le rapport tout bon, on a des nuances sur ce monsieur. En 2019, il sort un rapport qui dit une chose de très claire. Quel est le premier frein pour les salariés et notamment pour la jeunesse pour syndiquer? C'est la peur de la discrimination syndicale, la peur de la répression syndicale. Et en fait, pareil, en le disant, je corrige mon mot, c'est la discrimination patronale, la répression patronale, parce que la radicalité, elle est du côté des patrons, pas du côté des salariés.
Myriam, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes se situe en haut de la liste des priorités des jeunes. Comment est-ce que la CGT agit sur ce sujet?
Alors la CGT est féministe depuis depuis le 52e congrès, c'est revendiqué comme féministe. Donc
c'était
là,
en quelle année le 52e congrès?
C'était il y a 6-7 ans maintenant. Okay. Et donc c'était un point important de notre organisation. On a voté la parité au sein de la direction de la CGT depuis 1999. Okay. Donc en fait, ça fait longtemps qu'on mène une activité féministe et on avait même une cellule de veille de lutte contre les violences sexistes et sexuelles depuis 2016, donc avant le MeToo, pour qu'il n'y ait pas de violences sexistes et sexuelles au sein de notre organisation. Donc les enjeux féministes, les enjeux environnementaux sont aussi des points de levier de syndicalisation de la jeunesse, et puis ça fait vivre aussi les valeurs fondamentales de la CGT.
Emilio, il y a un chiffre dans ce sondage qui t'inquiète. Une des priorités des jeunes, c'est de défendre ses droits sans craindre des conséquences négatives. Qu'est-ce que ça dit de leur état d'esprit?
Oui, c'est ce que je disais, mais Thomas l'a évoqué, en fait, c'est sur la peur de la discrimination syndicale. On a tellement peur de se prendre le ciel sur la tête dès qu'on lève le petit doigt dans une entreprise que c'est quand même dingue aujourd'hui que les jeunes, la première chose qu'ils disent, c'est, en fait, ce que ça traduit, ça veut dire on a peur de se syndiquer. Pourquoi cette peur? Parce que la répression patronale, t'as raison de changer le mot d'ailleurs Thomas, parce qu'en fait la bataille c'est une bataille sémantique aussi, c'est pas une répression syndicale, c'est les patrons qui tapent sur les syndiqués. Et donc il y a cette peur qui empêche la syndicalisation. Et moi en fait c'était une question que je voulais poser à nos deux camarades syndicaux. Comment concrètement, c'est quoi les clés en fait pour les personnes au plus près dans les boîtes, justement pour dire à ces jeunes, en fait rejoignez-nous. Parce que la force, elle est avec nous, elle n'est pas si vous êtes tout seul. Comment on peut faire ça,
Myriam?
Je vais abonder sur ce que tu dis sur la répression patronale. Depuis le mouvement contre la réforme de 2023, on a eu énormément de répression patronale et de répression même du gouvernement, avec énormément de camarades inquiétés et beaucoup de camarades de l'énergie qui avaient eu des poursuites. Donc c'est plus de 1000 militants et militantes qui ont été inquiétés. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a une militante qui est allée au tribunal, c'est Céline Verzelitti au tribunal d'Aix-en-Provence, et c'est pas la seule de la direction confédérale, donc des plus hautes instances de la CGT à avoir été inquiétée. Donc ça, c'est des signaux gouvernementaux extrêmement graves donnés au patronat et qui du coup appliquent aussi la répression en entreprise. Alors finalement, la solution à ces répressions, c'est de se syndiquer en nombre. Parce que qu'est-ce qui inverse le rapport de force? Qu'est-ce qui permet de pouvoir avoir le rapport de force auprès du patronat? C'est justement d'être nombreux, nombreuses syndiquées dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est plutôt un cercle vertueux. C'est plus on est nombreux syndiqués, moins le patronat aura de force et moins il pourra réprimer.
Et je crois d'ailleurs que plus il y a de syndiqués, plus les gens sont mieux payés. Mieux les gens sont payés.
Oui.
Un truc qu'on constate
oui,
dans les
oui,
études.
Oui, c'est une vraie statistique, ça. C'est partout où il y a une organisation syndicale et notamment et non. Surtout le syndicat de la CGT, mieux les salariés sont payés en entreprise.
Non, mais je voulais rebondir en 10 secondes sur ce que tu disais, parce qu'en fait, l'exemple concret qui me vient en tête, c'est un militant CGT, Christian Porta, qui a subi une répression patronale inouïe, c'est-à-dire parce qu'il était délégué syndical, en fait, ils ont essayé de le virer à tout prix. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il y avait tout son collectif de collègues qui ont fait grève pour qu'il soit réintégré. Ça a marché. Ensuite, le patronat était tellement radicalisé qu'ils ont retenté ensuite de le licencier. Alors, je crois qu'ils ont perdu au prud'homme, etc. Mais effectivement, la leçon qu'on peut tirer de cet exemple, c'est qu'en fait, quand le collectif est derrière toi, c'est rare qu'il t'arrive quelque chose parce que de toute façon, c'est la seule force que tu as en réalité, quoi.
L'organisation collective fait basculer le patronat.
Toi, Safia, tu t'es syndiquée relativement jeune. Qu'est-ce qui t'a amené à te syndiquer?
Alors moi, j'étais syndicaliste lycéenne. Je me suis syndicalisée. Oui, c'est ça. J'avais 17 ans. Et alors, effectivement, le contexte qui m'a poussée à être syndicaliste, en fait, il a rejoint. Alors, il y avait la question de l'antiracisme. Je suis militante antiraciste, c'est-à-dire après les attentats de 2015, j'ai été frappée par la violence et ensuite par le contexte islamophobe qui s'en est suivi. Et en fait, quand j'arrive au lycée, il y a toute la question de la sélection universitaire et en même temps le mouvement des gilets jaunes. En fait, je fais un peu une connexion dans ma tête en me disant qu'on n'arrivera pas à faire avancer les questions antiracistes sans faire avancer le mouvement social, le mouvement étudiant, le mouvement lycéen et le mouvement ouvrier qui a les capacités et le rapport de force pour pouvoir faire basculer les choses, y compris sur les questions antiracistes. Du coup, moi, en fait, quand je me syndicalise, je commence à me faire ma petite matrice en mode, voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout ce truc-là, sélection universitaire, gilets jaunes. En fait, je que ça bouge. Et effectivement, quand ça bouge, il y a un effet positif, il y a un cercle vertueux en fait qui se produit. C'est que quand tu vois les gens bouger, quand tu vois que les gens ont une radicalité, qu'ils ont la capacité de bloquer, ça te donne envie de t'engager. Et moi, cette séquence-là, Gilets jaunes, je vous avoue qu'elle m'a beaucoup marquée et qu'elle m'a poussée en fait à être syndicaliste lycéenne. Et après, ça m'a ouvert d'autres portes dans l'engagement, quoi, finalement.
Tu faisais des liens avec l'antiracisme, il y a aussi des liens à faire avec les sujets internationaux. On voulait parler de la mobilisation des dockers de Fos-sur-Mer. C'était la semaine dernière que les dockers du port de Fos-sur-Mer ont refusé de charger une cargaison de pièces détachées de fusils mitrailleurs destinés à Israël. Une action, Myriam, je me tourne vers toi, une action qui s'inscrit dans une longue tradition de solidarité et d'engagement international de la CGT.
Oui, alors c'est une action dont on est très fiers et on sait qu'elle est extrêmement importante pour le monde du travail puisque justement, elle prouve que lorsqu'on est organisé, lorsqu'on est nombreux dans une entreprise, eh ben on peut changer le cours des événements. Et là, on a changé le cours des événements, on peut agir même sur le cours des événements internationaux. Il faut savoir que dans les valeurs de la CGT, il y a la valeur internationaliste et il y a les valeurs de paix. Et on est un soutien à la Palestine depuis la création, depuis de nombreuses décennies. Donc les dockers continuent à bloquer les conteneurs là où ils savent qu'il y a des matériaux qui peuvent être livrés au gouvernement de Netanyahou. C'est pas la seule entreprise qui agit sur le sujet, justement. Ça fait boule de neige et c'est extrêmement rassurant. On a le camarade Emmerich, on a ST Microélectronique qui a demandé à sa direction de ne plus agir sur des de ne plus produire des matériaux qui pourraient être livrés à l'armement de Netanyahou. On a les douanes qui ont aussi mis en demeure leur direction de ne plus faire de livraison. Et donc voilà, donc c'est vous montrer à quel point on a toutes et tous la capacité d'agir, même à ce niveau-là. Et donc on demande à ce que ça fasse boule de neige et à ce que tous les militants, militantes et les citoyens, citoyennes, le monde du travail se réveillent pour pouvoir se mobiliser. Demain, Il y aura des manifestations à l'appel des organisations syndicales, puisqu'il y a une conférence à New York du 17 au 21 juin, mais tu voulais peut-être en parler, concernant la Palestine. Et on aura tout à l'heure la chance et l'immense honneur d'avoir parmi nous l'ambassadrice de Palestine, avec qui on travaille, avec qui on a des contacts extrêmement réguliers, qui nous fera l'honneur de venir pour les 130 ans de la CGT pour pouvoir aussi nous apporter des témoignages et ses besoins.
Safia, on observe le même type de mouvement, mais dans d'autres ports de la Méditerranée, pas seulement à Fos-sur-Mer. C'est en train de faire tache d'huile.
Bien sûr. En fait, après que les dockers de Fos-sur-Mer aient retiré deux conteneurs du bateau, et en fait, ces deux conteneurs, c'était des munitions qui venaient d'Eurolinks, qui est une entreprise d'armement, en fait, à proximité de Marseille, cet appel, il a été reçu par les dockers de Gênes. Les dockers de Gênes, ils ont une tradition internationaliste extrêmement ancrée, c'est la Calpe Genova. Et en fait, ces dockers-là, ils se sont toujours mobilisés pour la paix entre les peuples, pour l'internationalisme, et finalement, contre la guerre. Et en fait, ils ont reçu du coup cette initiative des dockers de Marseille avec beaucoup d'enthousiasme, et à leur tour ils ont fait un sit-in sur le port et ils ont retiré un conteneur qui contenait des munitions pour l'armement à destination d'Israël. Et en fait, ça a fait effectivement tache d'huile dans d'autres villes d'Europe, et moi ça m'a fait remarquer deux choses: cette solidarité internationale entre dockers et plus largement entre travailleurs, c'est que cette méthode de la classe ouvrière, elle a un potentiel incroyable, qui est qu'en fait, s'ils décident de bloquer, mais en fait c'est bloqué, et c'est pas Macron qui ira mettre des munitions dans sa poche pour les donner à Netanyahou. Ça, c'est la première chose qui je vous avoue m'a fait un bien extrêmement fort, parce qu'en tant qu'étudiant, on a fait des campements, on s'est mobilisé. Je pense que les étudiants, on peut insuffler des idées de la radicalité, mais en dernière instance, c'est la classe ouvrière qui a les méthodes pour pouvoir bloquer les armes et changer la société. Et il y a aussi une deuxième chose que le blocage des dockers de Fos-sur-Mer comme de Gênes ont montré, c'est que la France continue de livrer des armes à Israël, contrairement à ce que dit Sébastien Lecornu, et que la France, elle a tenté de réprimer Ariane Lavrieux, journaliste de Disclose, qui a révélé comment la France livrait encore des armes à Israël. Et en cela, je pense que c'était une dynamite positive pour notre camp, qui, moi, m'a fait énormément de bien, et j'espère que ce mouvement à l'initiative des dockers va continuer.
Emilio, bravo. Emilio, l'engagement internationaliste de la CGT, on le retrouve également avec l'initiative de la flottille pour la liberté, c'est ça?
Oui, et ben justement, sur la flottille qui a été arraisonnée, on le rappelle, dans les eaux internationales et pas les eaux israéliennes, comme le répète l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères français.
Jean-Noël Barrot, il a dit ça?
Non, c'est les Israéliens qui disent dans les eaux israéliennes. En fait, les eaux israéliennes, à ce moment-là, d'ailleurs, n'existent pas, parce que ce sont les eaux palestiniennes qui se trouvent devant la bande de Gaza. Et donc, cette flottille, il y a des figures militantes qui sont les plus identifiées, Rima Hassan, Greta Thunberg, mais elles n'étaient pas toutes seules dans ce bateau. Il y avait 12 militants et militantes, notamment un militant de la CGT, Pascal Morieras, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est le CGT marin. Il y a aussi d'ailleurs un journaliste de Blast, Yanis Bamdi, et qui sont toujours retenus en Israël, illégalement par le gouvernement israélien. En plus, là, ça va vraiment se compliquer pour eux, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un soutien énorme pour que la diplomatie française se bouge, ce qu'elle ne fait absolument pas. C'est qu'avec le bombardement, les bombardements israéliens sur l'Iran, eh bien, l'espace aérien est fermé, et donc ils ne peuvent pas partir. Aujourd'hui, ils risquent d'être plusieurs semaines retenus encore illégalement par le gouvernement israélien, et donc il y a besoin d'une mobilisation quand même énorme pour pouvoir les sortir de là. À minima, peut-être qu'ils aillent dans l'ambassade, qu'ils puissent sortir via un autre pays. Mais en fait, il faut une mobilisation, une très large mobilisation. On l'a vu, elle existe. On l'a vu place de la République et dans plusieurs lieux du pays, parce que aujourd'hui, le rapport de force, puisqu'on parle de rapport de force, c'est bien le gouvernement de Netanyahou qui est en train de le perdre. Tu parlais du sommet. En fait, la pression s'accentue aussi pour une reconnaissance massive de l'État palestinien depuis New York la semaine prochaine. Et tout ça, c'est grâce à la mobilisation des peuples. En fait, les gouvernements, ils ne changent pas de pied comme ça. C'est parce que les gens se mobilisent. Là, ça fait plus d'un an et demi maintenant, quand même, que la répression s'abat. Là, le génocide sur Gaza est maintenant établi, quand on voit les discours des ministres de Netanyahou qui ne laissent aucune place au doute quant à leurs intentions. Et donc, c'est la mobilisation, y compris des syndicats, qui fait bouger les choses.
Thomas, on a vu dans le sondage que les sujets de solidarité internationale et de défense des droits humains étaient une priorité pour les jeunes. Est-ce que la CGT fonde son espoir aussi de syndiquer davantage de jeunes là-dessus ?
Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les préoccupations de la jeunesse, elles sont en phase avec l'histoire de la CGT et les mobilisations. Maryse Dumas, tout à l'heure, a beaucoup insisté sur ça, hein, sur la solidarité internationale contre la mise en concurrence des travailleuses et travailleurs à travers le monde. Ben, le salariat s'organise, y compris de manière internationale. Ça aussi, c'est méconnu en France. Hein. Il y a la CES en Europe et la CSI dans le monde. En fait, la première force, c'est la Confédération syndicale internationale. Okay. Et ça regroupe la totalité des organisations syndicales de la planète. Et d'ailleurs, sur la question palestinienne, ils viennent de prendre enfin une délibération pour pousser à ce que, enfin, le massacre s'arrête à Gaza, évidemment, et que la Palestine, qui est la question des deux États, etc., etc. Mais ce qui a été évoqué précédemment, il y a un élément complémentaire. C'est-à-dire que quand on est un syndicaliste, on n'agit pas à l'extérieur, on agit à l'extérieur. On peut aussi, Myriam a dit que demain, hein, les deux premières organisations confédérales de ce pays, la CGT et la CFDT, appellent ensemble aux mobilisations pour arrêter le massacre à Gaza et qu'il y ait enfin la paix en Palestine. Et aussi pour caractériser, c'est-à-dire qu'en face de nous, Netanyahou, c'est pas un, on le précise, il fait partie des gouvernements réactionnaires d'extrême droite, il faut le dire, et c'est contre ceci et contre cela qu'on s'attaque, qu'on essaie de résister. C'est vrai sur ce qu'on dit dans nos propos et c'est vrai sur ce qu'on dit dans nos actes. À la fois des éléments les plus compliqués et courageux que sont les dockers qui ont été évoqués. Je le dis, il n'y aurait pas eu de syndicats, il n'y aurait pas eu ça. C'est extrêmement important. Et ensuite, c'est aussi le travail qu'on fait à l'intérieur des entreprises, comme celui-là d'acte de bravoure, j'ai envie de dire, qui est dans la tradition historique de la CGT, mais aussi celle du quotidien qui permet de visibiliser, d'expliquer à ses collègues de travail l'inverse de ce qui est raconté là aussi à la télé, parce qu'on le sait. Sur la question de la solidarité internationale comme de l'extrême droite, ce qui va compter, ce qui va déterminer pour changer, c'est pas juste les discussions qu'on a entre nous et c'est bien qu'il y ait ces éléments qui puissent être diffusés, mais c'est aussi au quotidien, les discussions au bugne à bugne, à la machine à café, dans les services notamment, où on peut faire changer le cours des choses. Et quand on voit, je sais qu'on aura le sujet tout à l'heure, mais quand on voit ce qu'on a fait l'année dernière, puisque Myriam l'évoquait, face à l'extrême droite, Front Populaire, celles et ceux qui, là où l'extrême droite, elle fait 50, 60, 70%, ont été affichés dans leurs entreprises. Le fait que face à l'extrême droite, il faut le Front Populaire pour résister et pour gagner, ça, c'est aussi un acte de bravoure. Le syndicalisme du quotidien, c'est celui qui change concrètement la vie des choses à l'intérieur, entre guillemets, de la société. C'est le moins visibilisé et pourtant, c'est celui qui est le plus efficace de fait.